Et si nous redevenions humains ? Sophie vous invite à questionner vos croyances pour aller plus loin dans votre quête de conscience au service du vivant. Ce podcast est fait pour encourager les chercheuses et les chercheurs en humanité, leur donner des clés issues de l'expérience concrète de Sophie dans les domaines de la parentalité, des collectifs et de l'accompagnement de l'enfant. Bonne écoute !
Bonjour ! Alors aujourd'hui, je vais peut-être parler un petit peu du nez parce que je suis bien enrhumée. Mais je voulais continuer de vous présenter mon intérêt pour Montessori et puis peut-être aussi vous parler un petit peu des limites que j'y vois. En tout cas, on s'était un peu arrêté aux 3-6 ans. C'est ce dont je vous ai parlé la dernière fois le plus, mais de manière pas du tout complète puisque je vous ai pas complètement décrit l'environnement Montessori 3-6 ans. Pour être un peu plus complète, mais bien sûr, pour approfondir, il faudrait vous former tout simplement ou aller observer dans des écoles pour avoir une idée vraiment plus réaliste de ce que ça représente, cette pédagogie. Mais peut-être déjà vous dire que un environnement Montessori dans une maison des enfants comporte au minimum 4 R qui sont des espaces distincts dans l'ambiance Montessori et qui vont proposer un certain type d'activité. Donc dans ces 4 R, on va trouver d'abord la vie pratique. Je dis d'abord parce que c'est souvent la porte d'entrée pour les tout-petits par laquelle ils vont pouvoir se concentrer et être captés par des propositions et apprendre à se servir d'un environnement Montessori. Tout simplement parce que c'est par la vie pratique, bien souvent, qu'ils vont trouver de l'intérêt pour ce qui est présenté dans les étagères. Ce sont des petits plateaux où se trouvent des ustensiles, des versets, du matériel pour nettoyer, un miroir, cirer une chaussure, faire des lacets, pouvoir laver du linge, presser une orange, couper une banane, casser des noix, faire des petits gestes du quotidien qui vont fasciner le tout petit, qui a toujours envie de faire par lui-même et de faire tout seul et de faire comme les adultes. Et du coup, il a la possibilité de le faire en toute sécurité dans un cadre assez clair. Parce qu'il y a une seule difficulté, une seule activité par plateau, que le plateau est disponible et libre lorsqu'il est dans l'étagère, et lorsqu'il est déjà pris par un camarade, eh bien, il faut attendre son retour à l'étagère. Et ce qu'on dit aux enfants, c'est qu'une fois qu'on leur a montré l'activité, ou même qu'ils l'ont découverte par eux-mêmes en observant un ami, ils peuvent l'utiliser aussi souvent qu'ils le souhaitent. Et donc, il n'est pas rare qu'en rentrant le matin et qu'en arrivant à l'école Montessori, les tout-petits commencent par la vie pratique parfois, parce que c'est vraiment quelque chose qui leur permet de se concentrer et de faire travailler leurs petites mains, leur sens de l'observation. Ils sont complètement dans du sensoriel et la vie pratique vient servir ce développement sensoriel d'une façon extrêmement adaptée à l'intérêt et à l'enthousiasme du tout petit. Il n'y a pas que les tout petits qui aiment la vie pratique, des plus grands aussi. Et d'ailleurs, moi-même, lorsque je montre ou que je pratique un petit plateau, eh bien, ça me fait un bien fou parce que c'est très méditatif. C'est vraiment une invitation à lâcher le mental et à être complètement dans le corps et dans la pratique d'une activité qui pour un adulte paraît ultra simple, mais qui réveille nos sens. Quand on entend les petites graines tomber dans un pot, eh bien c'est quelque chose auquel on ne prête quasiment jamais attention dans la vie de tous les jours parce qu'on est toujours accaparé, très souvent accaparé, mentalement par des pensées et on fait deux choses à la fois. Donc quand on prépare la cuisine par exemple, on n'a pas tellement l'habitude d'écouter les sons que font les différents ingrédients qu'on manipule et là c'est vraiment l'occasion de le faire et de faire tout en conscience en fait, c'est assez pleine conscience hein, comme type d'activité. Donc il y a une ère de vie pratique, très souvent c'est une ère où il y a de l'eau, parce qu'on va aussi se servir de l'eau, des lavabos, on va manipuler de l'eau, on va laver, on va pouvoir faire notre vaisselle. Quand on a fait le petit plateau des biscuits ou du pain, On va pouvoir se laver les mains aussi quand on a pressé une orange ou tout ça. Donc voilà, se laver les mains d'ailleurs est une activité de vie pratique à part entière et on va vraiment être extrêmement attentif à ce qu'il y ait tout ce qu'il faut à proximité du petit lavoir à main. Le savon, la petite serviette, l'éponge pour essuyer les gouttelettes qu'on aura mis autour du lavabo et puis la serviette de bonne dimension, pratique pour les enfants et leurs petites mains. Et souvent, on rajoute une petite crème pour les mains, par exemple, ou quelque chose comme ça qui fait que l'enfant va prendre soin de ses mains jusqu'au bout. Là aussi, de quelque chose qu'on ne fait pas nous-mêmes au quotidien, forcément, mais là, c'est vraiment l'espace sacré du lavage de mains. Et ça fonctionne extrêmement bien avec tout petit, c'est fascinant. Il y a l'aire de vie pratique. Ensuite, on a une aire de vie sensorielle. Et Montessori a développé cette aire qui est une préparation indirecte à des notions telles que le système décimal, parce que dans le matériel de vie sensorielle, on va beaucoup retrouver cette base 10, 10 emboîtements cylindriques, 10 cubes de tout rose, 10 marches d'escalier marron, etc. Donc le 10 est omniprésent, comme il l'est sur notre corps, avec nos 10 orteils et nos 10 doigts. Et bien dans l'ambiance Montessori, on va retrouver cette base. La vie sensorielle, c'est vraiment une exploration de tous les sens. On va utiliser le chaud, le froid, le lisse, le rugueux, le mou, le dur. On va explorer des volumes, des formes. On va s'habituer à différentes gradations physiques qui existent dans l'environnement et les ordonner, mettre en paire des étoffes, mettre en paire des sons, etc., etc. Donc c'est vraiment très riche pour le corps entier, pour toutes nos capacités sensorielles qui sont exacerbées jusqu'à 6 ans, parce que c'est vraiment dans le prolongement de tout son corps que le monde apparaît à l'enfant et qu'il va l'explorer avec ses moyens sensoriels. Donc c'est ça qui va être privilégié dans la vie sensorielle. Ensuite, on a une grande ère de mathématiques. Le développement mathématique chez Montessori, c'est quelque chose d'absolument fabuleux parce que vous aurez remarqué sans doute dans votre expérience personnelle, que ce soit la vôtre ou celle de d'autres personnes que vous aurez pu observer, que les mathématiques, parfois, c'est assez traumatique pour les personnes en cours d'apprentissage ou bien même longtemps après. On va pouvoir avoir engrammé qu'on est nul en maths, que les maths ne nous intéressent pas ou qu'on ne les a pas comprises. Alors qu'en fait, à travers ce matériel Montessori, on va pouvoir explorer les mathématiques d'une manière extrêmement ludique, toujours très sensorielle. Donc on va vraiment rentrer par la porte du corps et par la porte de l'exploration sensorielle dans le système décimal, la numération, les opérations, mais aussi tout ce qui est grand nombre, tout ce qui est géométrie également. Donc tout ça va se déployer sur les étagères avec une gradation parfaite pour pouvoir apprendre des notions les unes après les autres. Et c'est vraiment une exploration. C'est vraiment très joyeux, très très gai de pouvoir explorer les mathématiques de cette manière-là, et surtout inoubliable, parce que en ayant récupéré des enfants qui avaient fait leur maternelle et peut-être des fois le début de leur primaire dans des établissements conventionnels, avec notamment une approche par l'abstraction, eh bien je me suis rendu compte que beaucoup d'enfants n'avaient pas compris les bases des mathématiques, même pas compris pourquoi on met l'unité à droite. Suivi de la dizaine, de la centaine, du millier. Et souvent, les enfants inversent, on ne comprennent pas pourquoi ces chiffres et comment ils forment le nombre. Et donc, souvent, c'est très chaotique l'acquisition du système décimal. Mais avec Montessori, on ne peut pas se tromper parce qu'on vit une expérience concrète, une expérience personnelle, une expérience intime. Et il n'y a pas d'erreur possible. En tout cas, j'ai jamais vu en 21 ans d'enfant qui est dans la confusion par rapport au système décimal lorsqu'il a pratiqué avec ce matériel-là. Le système décimal, évidemment, c'est un exemple, mais c'est aussi vrai pour des notions mathématiques plus complexes, comme les quatre opérations, comme les fractions, les nombres décimaux, et même pour aller encore plus loin, les identités remarquables, les racines carrées, etc., etc. Comme l'enfant va vivre tout ça d'une manière très très concrète, en manipulant du matériel logique, eh bien, tout ça va s'inscrire en lui et faire fonctionner son intelligence logico-mathématique à plein. Donc, il ne va pas y avoir ni de trauma en général. Hein. Moi, j'ai vu des enfants qui adorent les maths se déployer très, très souvent à la ferme des enfants. Et des enfants même qui rentrent dans des réflexions personnelles par rapport aux mathématiques, des rêveries personnelles, des questions qu'ils vont poser soit à des adultes de l'équipe ou à des camarades même ou à leurs parents, parce qu'ils sont en réflexion mathématique qui a été stimulée par la pratique de ce matériel incroyable. Et la dernière ère, c'est l'ère du langage, où on va aussi rentrer dans le langage écrit de manière sensorielle et concrète, avec les fameux sons qui sont présentés sous forme de lettres rugueuses et puis d'alphabet mobile. Donc on va d'abord apprendre l'écriture avant la lecture. C'est une façon d'apprendre qui est relativement analytique, mais non, clairement, c'est une méthode analytique, c'est-à-dire que l'enfant va apprendre les phonèmes. Phonèmes simples, phonèmes complexes, pas forcément, il n'y a pas d'ordre. On va choisir avec l'enfance ou en fonction de nos intuitions ce qui serait bon pour lui. On va rajouter petit à petit de nouveaux phonèmes à apprendre comme une découverte qu'on fait à chaque fois et qui va permettre à l'enfant de se composer un corpus de phonèmes avec lesquels il va manipuler l'alphabet mobile pour structurer son langage et composer des mots. Et une fois qu'il aura bien travaillé avec ces matériels-là, eh bien, il sera en mesure de lire. Et la lecture, c'est une grande découverte assez soudaine chez Montessori, puisque l'enfant se sera beaucoup exercé à l'écriture. Et un beau jour, va découvrir qu'à force d'écrire, eh bien, il sait lire. Voilà, donc c'est vraiment aussi le sens de l'histoire de l'humanité, lorsque on peut imaginer que les hommes, pendant le néolithique, sans doute même avant, avait laissé des traces qui pouvaient être décryptées par d'autres hommes qui venaient ensuite dans les lieux où ces traces étaient posées. Et donc on trace d'abord, on décrypte après, on déchiffre ensuite. Et ça, c'est vraiment le sens du langage. Voilà, d'abord il est exprimé, ensuite il est interprété. Cette ère du langage, elle est aussi très importante, c'est vraiment une base fondamentale d'une ambiance Montessori 3-6 ans. Ce matériel concret, ce matériel très très sensoriel, très concret, on va le trouver aussi dans le prolongement de tous ces apprentissages en 6-12 ans ou 6-9 ans selon les écoles. Mais petit à petit, il va nous emmener vers du semi-abstrait et puis vers l'abstraction pour finir en fin de cycle. Et évidemment, c'est une proposition, tous les enfants étant différents, il y a des rythmes différents, il y a même des enfants qui manipulent très peu le matériel, il y a des enfants qui vont prendre des chemins de traverse et trouver leurs propres moyens d'apprendre. Ce qui est important, c'est de mettre ce festin quotidien au service des apprentissages des enfants et bien sûr de les suivre et qu'ils puissent suivre leurs élans, leurs instincts et leur guide intérieur pour apprendre par eux-mêmes. Donc, le matériel Montessori ne peut en rien, de mon point de vue, être un dogme ni un plan de travail que l'on va exécuter comme le ferait voilà, n'importe quel exécutant avec le matériel 1, le 2, le 3, le 4, le 30, le 99, jusqu'au bout de ses possibilités, parce que ce n'est pas ainsi qu'il est prévu. Il est vraiment prévu pour être au service de l'enfant, au service de ses aspirations, de ses centres d'intérêt, de ses passions. Et s'il n'est pas utile, eh bien il n'est pas utile et c'est absolument pas un problème. Voilà, donc ça c'est très important parce que la pédagogie Montessori, c'est avant tout une philosophie, c'est avant tout une éthique, c'est avant tout une posture. Et c'est ça qui est très important, c'est que c'est la posture d'un adulte qui fait confiance aux lois de développement de l'enfant et qui les soutient. On ne peut pas être un soutien si on n'a pas le sens de l'observation. Soutenir ne peut se faire que si on a observé préalablement pour savoir de quelle manière on peut soutenir au mieux ce qui se passe pour l'enfant. Donc c'est vraiment lui qui va guider nos interventions, nos propositions. On peut avoir cette posture suscitante de l'adulte qui fait que de temps en temps, voilà, on va s'approcher de l'un ou de l'autre en lui disant, est-ce que tu serais d'accord que je te montre quelque chose aujourd'hui? Est-ce que tu as envie de faire ce travail que je te le montre? Et ça, c'est vraiment, on peut susciter, évidemment. On peut aller vers l'enfant pour lui faire des propositions, notamment lorsqu'on voit qu'un enfant tourne en rond ou s'ennuie ou il semble désœuvré. Mais là encore, c'est avec beaucoup de prudence que je vous dis ça parce qu'un enfant qui est dans l'inactivité, déjà ça n'existe pas vraiment. Les enfants sont toujours en train de vivre quelque chose qui est important pour eux. Et parfois, il y a des enfants qui sont très observateurs et qui vont passer beaucoup de temps juste à regarder les autres ou à observer des choses ou à ne pas s'engager activement dans un travail, mais parce qu'ils ont besoin de ce temps aussi pour trouver leurs élans, l'inspiration de faire par soi-même. Et forcément, dans un groupe d'enfants, il y a des enfants qui sont beaucoup plus dans le faire, et puis il y a d'autres qui sont beaucoup plus dans l'être, l'observation, puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus dans la socialisation. Il y a toutes sortes de profils, toutes sortes d'intelligences, et le but de la pédagogie Montessori, c'est de répondre à ces intelligences spécifiques. C'est pourquoi c'est une pédagogie qui est individualisée. Et donc c'est un déploiement de moyens qui vont permettre de soutenir l'enfant dans ce qu'il est en train de vivre. Cela étant, en tant qu'éducateur ou éducatrice Montessori, nous avons malgré tout en arrière-fond, dans notre connaissance, dans des repères par rapport à l'utilisation du matériel, parce qu'il a quand même un ordre, et parfois il n'est pas possible d'utiliser un matériel sans avoir vu un matériel précédent, tout simplement pour la compréhension du plateau de l'activité. Et c'est aussi à l'adulte d'indiquer, d'accompagner ce que les enfants veulent faire avec le matériel. Et par exemple, on pourrait dire à un enfant, oui, je vois que tu as très envie de faire cette activité-là. Cependant, avant de la faire, il faudrait juste que je te montre autre chose d'abord. Donc voilà, parce que c'est ça qui va te permettre de comprendre la suite. Donc, est-ce que tu serais d'accord que je te montre ça maintenant? Voilà, donc c'est toujours une approche très prudente, mais en même temps inspirante. Donc nous sommes des adultes inspirants, des adultes rassurants, des adultes confiants auprès de l'enfant. Pour qu'ils puissent vraiment s'appuyer sur nous pour avancer. Ce que j'ai observé aussi, c'est qu'en 6-12 ans, eh bien, les enfants qui vont petit à petit rentrer dans l'abstraction le font beaucoup plus accompagnés que les petits qui, eux, ont vraiment besoin de ce travail individualisé où leur sphère d'intimité va être respectée et où ils vont se sentir en sécurité avec des règles d'utilisation de l'ambiance. Où chacun a les mêmes, à savoir que lorsqu'un travail est pris, ben, il n'est plus à prendre. Lorsque l'on veut rejoindre un camarade dans son travail, ben, il faut lui demander s'il est d'accord. Et on peut choisir de travailler sur une table, sur un tapis, on peut choisir de sortir dehors, chez nous en tout cas. Et ça, c'est vraiment un choix libre et personnel. Mais parfois, bien sûr, il y a des petits qui s'accordent pour aller jouer dehors ensemble ou pour faire une activité à deux. Tant que c'est constructif et tant que ça nourrit chez l'enfant quelque chose de l'ordre de son développement, de son apprentissage, et c'est tellement vaste, n'est-ce pas? Que quasiment tout est constructif, en fait, hein. Il y a très peu de choses qui le sont pas, mais simplement aussi il y a un contexte à préserver et une ambiance. Montessori doit rester relativement tranquille et non pas silencieuse, hein. C'est pas du tout le silence que nous recherchons parce que le silence, c'est la mort, le silence en fait, hein. Quand il y a du silence, et ben, il n'y a pas de vie. Lorsque vous promenez dans une forêt, ce n'est pas silencieux. C'est calme parfois. On entend différents bruits, le vent dans les feuilles, les oiseaux qui chantent, le pivert, etc. Donc chacun a son occupation. Et son occupation peut être effectivement plus ou moins bruyante. Il peut y avoir des conversations qui sont très positives, très constructives, très riches entre les enfants. Et tout ça est accueilli parce que ça fait partie du contexte d'apprentissage pleinement. Mais par contre, si un enfant se mettait à utiliser un matériel à contresens vraiment et d'une manière qui pourrait nuire au matériel ou au camarade ou à lui-même, je ne sais pas s'il se met à jeter du matériel à travers la pièce ou à utiliser des feutres sur des parties de matériel qui ne sont pas prévus pour l'écriture, ben évidemment, voilà, on ne va pas laisser l'enfant abîmer le matériel, dégrader. Au contraire, hein, ce matériel-là est voué à passer de nombreuses années entre les mains de différents enfants. Et donc, quand on constate de possibles dégradations, ben c'est un moment où on intervient tranquillement, toujours en se rapprochant de l'enfant, en se mettant à sa hauteur et en lui expliquant que son attitude vis-à-vis de l'activité n'est pas adaptée et en essayant de trouver de quoi nourrir son élan à ce moment-là. Voilà, donc j'ai pris beaucoup de plaisir à pratiquer avec cette pédagogie aussi chez les plus grands parce que c'est tellement plus simple d'apprendre avec Montessori, quoi. La grammaire, la mathématique, la géographie. Et c'est une base en fait, et c'est une base qui va leur donner beaucoup d'élan pour aller vers d'autres questionnements, d'autres approches, d'autres démarches qui vont être complémentaires. Donc c'est vraiment avant tout une base d'apprentissage. On va déplorer que chez Montessori, enfin nous non, mais les inspecteurs parfois, il n'y a pas beaucoup de traces écrites parce qu'effectivement l'objectif n'est jamais de remplir des cahiers. On ne pousse pas les enfants dans cette direction, ceux qui apprécient d'avoir des cahiers, de pouvoir reproduire des exercices, des schémas, des notes, des dessins dans leur cahier, ben c'est tout à fait bienvenu et ça peut être très intéressant, mais c'est pas quelque chose qu'on va institutionnaliser dans une classe Montessori, hein, ça n'a pas d'intérêt. Il y a tellement de quoi manipuler le matériel, de quoi s'exprimer à travers toutes ces activités, de quoi nourrir le développement de son instruction et de son savoir que ma foi, la trace écrite, elle va pas de soi en fait. En fait, la trace écrite à l'école, c'est vraiment quelque chose qui est pensé et imposé par l'adulte. Et en fait, c'est souvent pour les enfants une contrainte. C'est pas toujours évident pour les enfants de trouver du plaisir à prendre toutes ces notes, à recopier des paragraphes d'histoire, de sciences, de français, à recopier des exercices au propre, bien proprement. En fait, il y a assez rien à voir entre les élans naturels d'un enfant et ses traces qui vont être consignées dans quantité de cahiers ou classeurs pour le confort et la réassurance de l'adulte en fait. Parce que c'est ça. Bien sûr que c'est aussi un entraînement pour la main, pour l'écriture, pour le graphisme. Ça, c'est évident et j'ai pu constater que les anciens de la ferme des enfants, ils partent avec une forme de lacune ou de, comment on pourrait dire, de manque de pratique, de manque de pratique de cette quantité d'écriture. Et là, en ce moment, je suis pleinement en train de le vivre avec mon fils qui a 20 ans et qui a intégré l'université. Et les premières semaines, il était inquiet parce qu'il se disait, oh, mais il faut remplir des pages et des pages à la main et j'ai jamais fait ça toute ma vie, je sais pas si je vais y arriver. Et moi, je lui ai dit, bah si, moi, j'ai complètement confiance. Alors, on a beaucoup parlé, il m'a beaucoup parlé de son écriture, est-ce que mon écriture est correcte, est-ce que le prof va apprécier, est-ce qu'il va arriver à me relire. Et tout ça, moi, je trouve qu'il avait une très jolie écriture, même atypique, hein, c'est vrai, plutôt des lettres d'imprimerie. Donc, c'est plus long d'écrire en lettres d'imprimerie, mais n'oublions pas que dans tout le monde anglo-saxon, les enfants, les étudiants écrivent ainsi. Et lui, c'est ainsi qu'il se sentait le plus à l'aise. Et puis, voilà, je trouvais qu'il avait une écriture très appliquée, mais forcément, en termes de vitesse d'écriture, il était un petit peu en dessous de ce qui était demandé. Et en quelques semaines, en fait, il s'est complètement rassuré parce que les premiers partiels qu'il a eus dans l'année, là, eh bien, il s'est rendu compte qu'il arrivait au bout de tout ce qu'il avait à dire dans le temps imparti, et que même il lui restait un peu de temps à la fin pour se relire, et il a été complètement rassuré. Alors que franchement, mes enfants font partie des jeunes qui ont très 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 peu écrit dans leur scolarité. Ils n'ont jamais rempli de cahiers et de classeurs. Mais l'écriture a toujours compté pour eux, avec beaucoup de sens, pour faire des listes, communiquer avec les copains, mettre des mots dans la boîte à mots lorsqu'ils étaient à l'école, faire même des articles pour le journal, des choses comme ça, écrire à des correspondants, enfin tout ce qui est réel, quoi, tout ce qui est vrai, qui correspond à un besoin. Mais consigner des exercices et des leçons dans un cahier ne répond pas à, enfin, assez rarement, d'après ce que j'ai observé, à des besoins chez les enfants ou les jeunes. Un peu plus au collège, peut-être ils apprécient un peu plus au collège de prendre des notes, de pouvoir ressortir leurs notes, etc. Mais en tout cas en primaire, je crois que je n'ai jamais vu un enfant intéressé par une démarche de remplir des cahiers ou des classeurs. Voilà. Donc, par contre, j'étais hyper à l'aise avec faire des fiches, du travail, les consigner dans leur classeur. En faisant des trous avec les perforateurs et puis hop, mettre ça dans le classeur ou même écrire des histoires, des romans, des bandes dessinées, des articles pour le journal, écrire à leurs correspondants, enfin tout ça, c'était complètement intégré à leur vie quotidienne, beaucoup plus que le scolaire pur et dur qui ne faisait pas sens pour eux et dont on ne parlait que très peu en fait, hein. Voilà, donc dans Montessori, il y a quand même cette démarche d'instruction qui fait que les notions sont explorées les unes après les autres, mais avec beaucoup de matériel disponible, donc un côté très ludique. Par exemple, pour la nature des mots en grammaire, eh ben, y a un plateau avec neuf formes différentes qui correspondent à neuf natures de mots, parce que vous savez sans doute qu'il y a neuf natures de mots, on en a identifié neuf, hein, et chacune a une forme géométrique et une couleur différente, et ça, cette base-là, ils vont l'utiliser pendant des années à essayer de chercher quelle est la famille de chaque mot dans une phrase, par exemple, avant de faire une analyse de phrase. Donc ce qu'on appelle le découpage analytique des phrases qui va leur apprendre le reste de la grammaire, c'est-à-dire notamment l'utilisation des compléments, des attributs, etc., etc. Donc avec très peu de matériel, très peu de notions, on va arriver à explorer un grand champ du programme du socle commun d'instruction et finalement les enfants qui passent par cette pédagogie sont plutôt plus au fait et plus dans la compréhension que ce que j'ai vu dans le système conventionnel où c'est assez confus au final parce que tout est un peu mélangé, on passe du coq à l'âne. Moi, même moi en tant qu'élève, hein, je ne faisais pas les liens entre les différentes parties des leçons parce que c'était décousu. Et lorsque j'ai rencontré Montessori, pour moi, c'était très harmonieux parce que ça remettait du sens global à chaque fois avec beaucoup d'amour pour le sujet, d'amour pour la langue, d'amour pour l'histoire, d'amour pour les mathématiques. Et ça m'a rendu les matières beaucoup, beaucoup plus agréables que ce que j'ai connu quand j'étais un élève moi-même. Voilà quelques pistes concernant les limites de cette pédagogie. Eh bien, le problème principal que j'y vois, c'est que c'est une pédagogique qui a tendance à se rigidifier dans certains contextes, dans la plupart des contextes, j'ose dire, parce que du fait que ce soit une pédagogie aussi très structurée, elle a été assez facilement, je trouve, récupérée pour des intentions de performance que je trouve complètement inadaptées, hors sujet. Et pourtant, c'est quand même ce qui se pratique dans beaucoup d'écoles, malheureusement, qui sont souvent des écoles privées hors contrat, donc des écoles coûteuses. Il faut savoir que lorsque les familles déboursent des sommes d'argent assez importantes pour scolariser leur enfant, il n'est pas rare qu'il y ait une forme de commerce qui s'installe, à savoir que les parents parfois ne supportent pas d'être déçus ou déroutés par le manque d'apprentissage, entre guillemets, de leurs enfants. Donc ils ont quand même le projet avec ce type de pédagogie que leur enfant performe à l'école, qu'il soit au minimum éveillé, sachant, intéressé par les matières, etc. Et lorsque ça n'arrive pas, et ben ils peuvent exprimer beaucoup de déception, ce qui fait pression aussi sur les équipes. Donc, on sait, hein, ça c'est de notoriété publique, que la pédagogie Montessori permet d'accélérer les apprentissages, de les favoriser, puisque à l'époque, même où Montessori pratiquait, c'est quelque chose qui a été souligné par même la presse internationale, comme quoi les petits Montessoriens avaient tellement d'avance dans leurs apprentissages. Évidemment, ce n'est absolument pas le but. C'est une pédagogie qui est au service du développement de chaque enfant, dans sa spécificité, dans ce qu'il a d'unique et dans son rythme propre. Donc il ne s'agit pas de faire des promesses comme il saura lire avant 6 ans, il sera mathématicien ou excellera dans le domaine, dans tel ou tel domaine. Ça n'est absolument pas l'objet de cette pédagogie. Donc, pour ceux qui auraient compris ça, ben, vous êtes invités à retirer cette croyance, ou en tout cas la transformer, parce que c'est vraiment, encore une fois, au service de l'enfant, de sa liberté de choisir, sa liberté de se mouvoir, de sa liberté de construire et d'écouter les processus d'apprentissage qui sont à l'œuvre à l'intérieur de lui. Et c'est vraiment un soutien à quelque chose que vit l'enfant dans son intimité, et à aucun moment il s'agirait de asséner cette pédagogie Montessori pour faire de l'enfant un projet pour les adultes. Après, il y a d'autres critiques qui émergent parfois, et notamment le manque de dimension artistique ou de fantaisie d'une pédagogie qui est très structurée. Voilà. Moi, j'aime la structure, donc c'est pas quelque chose qui me déroute ou qui me rebute, parce que c'est aussi un type de structure dans lequel je me sens très à l'aise, parce que on va demander, dans une ambiance Montessori, à ce que les plateaux soient très clairs, très lisibles, bien rangés, jolis, avec des belles matières, du bois, des étoffes, de la porcelaine, du métal, de la céramique. Donc des matières nobles et des beaux objets. Donc quand on est montessorien, on passe notre temps à chiner, à faire les brocantes, les Emmaüs, les marchés pour trouver des objets qui nous conviennent. Et on va avoir une sorte de passion pour l'intérêt. On va avoir une sorte de dévotion à l'intérêt de l'enfant, c'est-à-dire que on va se projeter dans qu'est-ce qui pourrait intéresser l'enfant ou cet enfant-là en particulier. Et notre travail, c'est beaucoup d'aller chercher des moyens de soutenir l'intérêt de l'enfant. Donc moi, je trouve ça passionnant, parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose de vivant, qui est tout le temps en mouvement, qui est riche et qui nous met en lien directement avec chaque enfant. Parce que c'est vraiment le fait que ce soit individualisé et qu'on se demande chaque fois, tiens, de quoi il aurait besoin et comment je pourrais l'accompagner et qu'est-ce que je pourrais lui proposer et qu'est-ce qui soutiendrait sa passion du moment ou son intérêt du moment. C'est quelque chose qui me porte beaucoup personnellement. Voilà. Et de trouver de la liberté aussi dans une pédagogie, pour moi, c'était extraordinaire, parce que malgré leur qualité et à beaucoup de pédagogies, d'autres pédagogies, où il y a vraiment un projet sur les épaules de l'enfant. Donc l'enfant doit obéir au projet qu'on a pour lui. Et là, pour moi, Montessori, c'est vraiment, voilà, on organise, on aménage un espace dans lequel l'enfant va librement évoluer. Et l'adulte et la volonté de l'adulte deviennent très secondaires dans cette expérience. Donc voilà, il y a des personnes qui vont encore plus loin en disant finalement, Montessori, avec Montessori, on crée de la docilité, des petits êtres qui sont des exécutants dans une activité qu'ils doivent reproduire, etc. Donc qui y voient une certaine rigidité. Oui. C'est vrai que c'est très différent d'une pédagogie où les enfants sont par exemple dans la forêt, en liberté dans la forêt, et puis vont explorer plein plein de choses naturelles et en faire absolument ce que le moment leur inspire. Mais pour moi, c'est complémentaire en fait, parce que l'ambiance Montessori, c'est un environnement donné, la forêt, c'est un autre environnement, et moi, je ne le conçois que dans une juxtaposition d'environnement. Donc un environnement avec des instruments de musique, un environnement avec de la peinture et de modelage. Nous, à l'école, on avait aussi un café philo, donc un environnement très relaxant où on peut se poser sur des coussins pour deviser, philosopher avec les autres. Un environnement où on va avoir des livres et des ordinateurs, un environnement où on peut projeter des films. Un bac à sable avec la possibilité vraiment de créer des univers, des caplas, des jeux de construction, etc. Donc pour moi, tous ces environnements ont leur raison d'être et se marient très bien avec cette pédagogie Montessori. C'est sûr que si on conçoit la pédagogie Montessori comme un laboratoire dans lequel les enfants sont enfermés avec leurs petites blouses blanches à se comporter comme des petits adultes très conformés, très conditionnés, bah je comprends qu'on soit critique vis-à-vis de cette pratique. Mais lorsqu'elle s'intègre à d'autres ambiances où il y a d'autres possibilités, bah pour moi, ça me convient complètement parce que l'attitude qu'inspire Montessori, à savoir le développement de l'attention pour ce qui est autour de nous, la recherche du sens aussi de chaque chose, développer le sens de l'observation, développer le sens de l'autre grâce aux interactions qui peuvent se passer dans un environnement où on ne fait pas tous la même chose, mais où chacun va qu'à ses occupations, où chacun a la possibilité d'être lui-même et où il faut attendre avant d'utiliser un matériel qui est déjà occupé. Bah, tout ça, ce sont des attitudes qui vont se développer dans l'environnement Montessori, mais qui sont transposables pour moi et soutien même dans d'autres environnements. Un enfant qui est passé par cette pédagogie, bah, lorsqu'il va se retrouver au milieu du troupeau de chèvres, bah, il va pas forcément avoir la même attitude qu'un enfant, parce que comme j'ai pu côtoyer les deux, est enfermé sous la contrainte d'apprentissage qu'il n'a pas choisi pendant des heures, et lorsqu'on va le libérer pour aller par exemple à la ferme, et ben l'énergie qu'il va déployer n'est pas du tout la même parce que c'est l'espace de liberté qu'il va trouver dans sa journée où ça va être du défoulement, ça va être éventuellement des cris ou des gestes qui ne sont pas ajustés à l'environnement vivant, parce qu'il n'a pas tout simplement eu la possibilité d'exercer sa présence d'une autre manière. L'enfant est sous l'injonction d'un adulte qui décide de toutes les activités de la journée, qui le contraint, qui le valorise ou le dévalorise, qui lui impose son regard sur tout ce qu'il fait, et bien forcément l'attitude face au vivant et dans d'autres situations ne va pas du tout être la même. Voilà, donc je pense que ces ambiances-là, Montessori, elles sont nourrissantes pour développer aussi une qualité d'être en toutes circonstances. Sachant que en plus, cette proposition Montessori nourrit vraiment l'enfant, donc il fait le plein Il fait le plein de quelque chose lorsqu'il est dans cette liberté d'agir et de choisir avec un matériel qui est adapté à son développement. Voilà, donc j'ai pas, moi j'ai pas beaucoup de critiques, mais beaucoup de prudence par rapport à ce qu'on en comprend de cette pédagogie et la manière dont on peut l'utiliser dans nos écoles alternatives ou même rêvons un peu dans le public, ce serait merveilleux. Mais à condition vraiment de respecter un usage qui ne soit pas dévié ou détourné vers des performances qui ne sont absolument pas le projet de l'enfant. Voilà, eh bien j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires ou des questions parce que ça peut vraiment enrichir la suite de ces podcasts. À très bientôt, merci.